15h40, c'est la Bourse Cash. David Krupp nous rejoint aujourd'hui pour la Financière de l'Échiquier. Bonjour David.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue. Vous avez exceptionnellement choisi aujourd'hui, David, de parler vrai. Vous êtes sûr ?
Je suis sûr.
Pour vous, même les plus grands stratèges américains succombent à l'effet FOMO. Presque tous les stratèges ont donc désormais peur de rater la hausse des marchés. Ce constat, il est cru, mais réel.
Il est réel.
L'effet FOMO. Donc, effectivement, la peur de rater la hausse des marchés. Là, la musique peut s'arrêter. C'est ça, exactement. La peur de rater la hausse des marchés. Pourquoi ? Enfin, non, mais attendez, les marchés, ils ont déjà bien monté. On est sur des records. Et vous venez nous dire que même les plus pessimistes, désormais, des stratèges américains, deviennent optimistes, alors que le marché est déjà sur un plus haut. C'est l'effet FOMO, c'est ça l'effet FOMO, c'est la peur de rater le train.
C'est exactement ça, Guillaume. On a eu 25 records cette année sur le S&P, peut-être 24 ou 26, mais les grands stratégistes se rallient, sans mauvais jeu de mots, à la hausse des marchés. Et c'est vrai qu'on a, il y a des arguments derrière. C'est pas vide de sens. Il y a des arguments encore pour cette année pour pousser. On était assez étonné de voir notamment l'emblématique Mike Wilson de Morgan Stanley qui a été si pessimiste et je suis venu souvent porter sa parole ici. Et là, il a complètement switché son objectif de cours. Il faut savoir que l'objectif de cours sur le marché maintenant américain en moyenne est à 5400, tandis qu'il y a moins d'un mois, il était à 5200. Donc les objectifs sont tirés à la hausse et par ceux qui ont été pessimistes, comme Mike Wilson qui est passé de 4500 à 5400, donc 20% d'augmentation. Il s'est levé de bonne humeur et il a poussé son objectif à la hausse. Et il y a des optimistes qui remontent leur objectif, notamment celui de BMO, Brian Belsky, qui est passé de 5100 à 5500. Mais il a toujours été optimiste, mais comme les objectifs sont dépassés, Guillaume, il faut bien faire quelque chose. Pareil pour Deutsche Bank, qui est passé de 5100 à 5500. Et puis, on a les optimistes qui sont toujours là, comme UBS, qui nous dit « Moi, je suis très confiant sur l'inflation. Le print de janvier sera à 0,2. Je suis très confiant sur la résilience du consommateur américain, avec plein d'arguments là-dessus. Je suis très confiant sur l'intelligence artificielle. Vous inquiétez pas, ça va pas durer. Donc, la productivité va s'améliorer. » Et le dernier point, c'est le positionnement qui dit être clean, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surachat. Et donc, clairement, tous ces changements de vision ou ces visions qui sont poussées à la hausse, qui sont un peu exacerbées, sont avec des objectifs très forts. Donc, il ne nous reste plus que JP Morgan, qui a ce fameux objectif de 4200, donc très très bas,
ah oui.
Et qui lui trouve que les taux sont très restrictifs et que la valorisation du marché est trop élevée.
Mais c'est incroyable, donc les plus pessimistes des stratèges américains, ouais. Finalement sont obligés de s'aligner. De toute façon, que faire face au marché ? Le marché a toujours raison et donc fixe de nouveaux objectifs beaucoup plus optimistes qu'auparavant. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui il est en bourse interdit d'être pessimiste, David ?
Non, mais ce qui est très intéressant, Guillaume, c'est qu'il faut se rappeler que ces grands stratégistes, ils parlent aux plus grands clients dans le monde. Donc, il n'y a pas de raison aussi que vos auditeurs n'entendent pas cette voix. Ces grands stratégistes parlent aux grands clients américains, que sont T. Rowe Price, Artisan, Fidelity et autres. Donc, la résonance, elle est là. C'est des clients qui gèrent des centaines de milliards de dollars et qui reçoivent ce sentiment de la part des stratégistes. Donc, je ne sais pas s'il est inopportun d'être bearish maintenant, mais en tout cas, les grandes voix du monde qui parlent aux grands clients du monde leur disent ça. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Mais parfois, c'est Warren Buffett lui-même qui le dit, qu'il faut savoir aller à contre-courant du consensus, et on a un consensus vraiment de plus en plus largement optimiste. Même les pessimistes deviennent optimistes sur le marché. Est-ce que du coup, c'est le moment de s'enfuir ?
Oui, mais d'un autre côté, on a un marché qui est très momentum depuis maintenant un certain temps, et ceux qui ont voulu être négatifs, je crois qu'il y a 5 années sur 6 où les marchés progressent et montent.
Ah oui.
Donc, il faut trouver l'année où ça ne se passera pas, et quelque chose me dit que ce ne sera pas encore cette année où ça se passera.
Ce sera quoi les moteurs de la poursuite à la hausse sur les marchés d'après vous ?
Ah, ça c'est la vraie bonne question, Guillaume, merci de la poser.
Vous devriez venir plus souvent, vous manquez souvent.
Quand vous voulez, moi je reste là 2 heures si vous voulez, hein, et tous les jours. Je pense que d'abord le Goldilocks scénario, on a eu la Suisse, la Suède qui a baissé ses taux, Guillaume, on va avoir bien sûr la BCE en juin, on aura la BOE peut-être, on peut en parler d'ailleurs parce qu'il y a un chiffre du CPI négatif, la BOE en juillet, il y aura la Fed derrière. Donc la première chose, c'est que les baisses de taux, elles sont devant nous. Et ça, c'est quand même un argument qui est très sérieux et très fort. La deuxième chose qui est assez intéressante, on ne parle plus beaucoup de concentration, mais ce qui est intéressant, c'est que ce point-là, c'est un côté négatif qui s'est un peu envolé. 72% des sociétés du S&P traitent au-dessus de leur moyenne mobile 200. Ça veut dire quand même que le marché ne monte plus qu'avec 5-6 valeurs, avec les Mag 7. Il traite, il monte avec un ensemble de valeurs beaucoup plus large. Et ça, c'est aussi très positif pour la continuité de la hausse du marché. Après, on a vu qu'il y a toujours un appétit. Je vous donne juste un chiffre, Guillaume. Il y a eu 12 milliards la semaine dernière d'ABB de mise sur le marché. Donc, les mises sur le marché, voilà, du secondaire qui revient, où on a des actionnaires qui revendent des quantités importantes. Et ben, non seulement ça s'est très bien passé, mais le return, donc le retour à ceux qui sont venus acheter ces titres, est de 2% en une semaine. C'est-à-dire que non seulement il y a de l'appétit, mais les ABB et le retour sur le marché se passent bien. Et puis, dernière chose aussi très importante, c'est la croissance des EPS. On a eu 90% des sociétés
des bénéfices par action,
qui ont publié. On finit un trimestre à moins 5, mais on attendait moins 13. Et maintenant, sur l'ensemble de l'année en Europe, on est plutôt à des publications qui devraient être en croissance de 6 à 8%,
oui, oui.
Tandis que le consensus est à 3,7. Dernière chose, les flux, mais là, je peux vous en parler encore.
Parce que les flux reviennent sur les actions, c'est
oui, les flux reviennent. Il y a 8 trillions sur le marché monétaire. On en a souvent parlé ensemble. Si les taux baissent, ça sera un argument supplémentaire à la hausse des marchés. Mmh. Et vous savez, le retail, c'est 36% du S&P. Il y a 57 trillions. Ça veut dire qu'ils détiennent 21 trillions du marché. Et rien qu'entre octobre et maintenant, et je finis là-dessus, il y a eu 1,2 trillions supplémentaires de richesse qui est venu dans les particuliers américains.
Donc, il faut aussi vous rendre justice, David, parce que vous nous parlez de ces grands stratèges américains d'habitude très pessimistes qui deviennent désormais optimistes. Vous l'êtes depuis des mois et des trimestres optimistes, ouais, hein, sur le potentiel des marchés. Voilà. Bah, c'est pour ça que moi je méfie. Tout le monde est optimiste. Là, c'est peut-être le moment de prendre. Ouais. Enfin, je sais pas. On posera cette question encore à d'autres intervenants, bien sûr, BFM Bourg jusqu'à 18h. Vous restez avec nous, David. Aude nous appelle et nous attend d'ailleurs depuis la tour Euronext. Aude, pour le suivi de cette séance, justement. Alors aujourd'hui, c'est une séance de consolidation et de prise de bénéfices en Europe.
Ah ouais, vous parlez d'optimisme. Aujourd'hui, on est un petit peu moins sur le marché parce qu'effectivement, il y a eu ce chiffre ce matin du côté de Londres, cette inflation britannique, alors qui est bien descendue quand même. Si on regarde le mois de mars par rapport au mois d'avril sur un an, on est passé de 3,2 à 2,3% donc d'inflation en avril sur un an. Le marché, lui, attendait 2,1%, donc il attendait encore moins. Mais c'est aussi du côté de l'inflation core, hein, l'inflation sous-jacente britannique, qui finalement la redescend un petit peu plus doucement. On est toujours à 3,9% d'inflation sous-jacente de l'autre côté de la Manche. Donc c'est donc là se situe la déception. Et vous vous souvenez, il y a un peu plus de 10 jours, c'est sur justement la réunion de la Banque d'Angleterre qu'on avait atteint de nouveaux records à Paris et puis d'ailleurs partout en Europe. Et bien là, finalement, ça remet en cause quand même l'anticipation d'une baisse de taux qui était quand même optimiste, en tout cas pour le mois de juin. Et c'est pour ça que donc les marchés baissent moins 0,5% à Paris, moins 0,6% à Londres et moins 0,1% à Francfort.
Et Aude, vous nous rappelez dès que vous le souhaitez, priorité à la séance et variations du jour sur les marchés. Un secteur souffre, secteur automobile. David, il faut qu'on vous interroge là-dessus quand même. Ce communiqué de la Chambre de commerce chinoise au sein de l'Union européenne, un communiqué qui laisse planer quand même l'idée d'une hausse des taxes à l'import en Chine sur les voitures européennes puissantes, peut-être les voitures allemandes notamment d'ailleurs. Le secteur auto est entraîné à la baisse, on voit le luxe aussi reculer aujourd'hui. Toujours la question des taxes douanières manifestement sur le grill là.
Alors sur le luxe, il y a eu aussi des propos de Chanel qui étaient un petit peu, qui n'est pas coté en bourse bien sûr, mais qui ont été un peu pessimistes et négatifs sur la poursuite de la croissance. Et évidemment, comme les valorisations ne sont pas si élevées que ça, mais ça donnait en tout cas un témoignage un peu plus pessimiste sur le luxe. Mais pour revenir à votre question...
Ça n'arrive pas tous les jours, mais Hermès et Lanterne Rouge du CAC aujourd'hui, voilà, moins 4%.
Ouais. Et je crois vraiment que c'est les propos de Chanel pour ce fait-là. Après, vraiment, réellement, oui, ça témoigne en tout cas d'un risque géopolitique, de protectionnisme des pays. Donc ça pourrait être un frein à la croissance, Guillaume. Il faut le voir plus globalement que même sur un secteur même, parce que je pense qu'on peut, tous les secteurs peuvent être touchés. On a parlé récemment du cognac, des boissons, de l'automobile, des semi-conducteurs. Tout peut être dans cette nasse de problématiques liées à ce protectionnisme. Mais le problème du gouvernement chinois, c'est qu'ils ont fait une grave erreur, parce qu'ils ont fixé une croissance à 5%, donc ils vont être obligés de l'avoir. Donc d'avoir une guerre commerciale entre la Chine, l'Europe et les US, ça ne va pas leur faciliter gâté la tâche de pouvoir arriver à ces 5% de croissance.
Bon, ils mettent les chiffres qu'ils veulent sur leur croissance officielle.
Ils mettent les chiffres qu'ils veulent, mais il faut qu'ils y arrivent quand même. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Puis, on a ces élections en ligne de mire, Guillaume, qui font que Biden propose une série d'augmentations, là où Trump propose une escalade. Donc, on sait que ça va être des propos qui vont revenir souvent. C'est pas nouveau, mais ça va revenir. Et la plus grande problématique, c'est que ça peut augurer d'une croissance un peu plus faible. Et ça, c'est pas tout à fait ce qu'on veut quand même. On veut une croissance quand même qui reste soutenue avec une inflation qui décélère. Il faut pas qu'on arrive dans une problématique de hard landing, bien entendu.
Les marchés, donc, qui aujourd'hui sont en petite consolidation avant ce soir, l'heure de vérité. Pour l'intelligence artificielle, 22h20, la publication d'NVIDIA. C'est aussi l'objet de notre question du jour. Vous n'allez pas y échapper à la question du jour sur NVIDIA. Cette question qu'on vous pose, vous tous aussi, sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse notamment et notre fil LinkedIn. Ce soir, NVIDIA va publier, à vos yeux, après cette publication, le titre va-t-il à nouveau s'envoler, désormais piétiner, ou pourquoi pas chuter ? Telles sont les trois options qu'on vous propose. Alors, on n'est pas Madame Soleil, on est bien d'accord. Mais comment est-ce que, à titre personnel, David, vous vous préparez à cette publication ? Est-ce que vous imaginez un nouvel effet blast sur les marchés mondiaux ?
Alors, écoutez, c'est très difficile, vous avez raison de dire que de prévoir la publication d'NVIDIA, il y a pas mal de petites choses. Moi, mon sentiment, c'est que si ça baisse, parce qu'on anticipe que ce soit une variation de plus ou moins 9% sur NVIDIA par rapport aux résultats que ça pourrait avoir. Donc, la variation va être très forte. Quoi qu'il en soit, si le titre baisse de 9, moi, j'hésiterais pas à buy the dip, ce fameux, à racheter le titre. Si le titre venait à casser, je serais content d'en avoir. C'est ce qu'on a en portefeuille. Je crois qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui en ont. Donc, je pense qu'il faut se laisser porter si le titre monte. Par contre, s'il y avait des résultats qui étaient un peu inférieurs pour plein de raisons, et on peut en parler, bien sûr, mais j'hésiterais pas à racheter la baisse du titre.
Oui, c'est votre chouchou dans l'intelligence artificielle, enfin voilà, Nvidia, même c'est si pas... on a peut-être les 1000 dollars d'ailleurs en ligne de mire, hein, sur le titre Nvidia désormais. Bon,
alors c'est cher,
c'est peut-être pas la plus chère. Enfin, comment est-ce que vous regardez ?
Qui aurait eu envie de vendre Intel dans les années 80, hein, Guillaume ? Donc c'est exactement la même question qui se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, personne n'a envie de vendre Nvidia. C'est vraiment le moteur de croissance de l'intelligence artificielle. C'est un modèle unique, c'est des espoirs qui sont très forts. Maintenant, oui, il y a d'autres choses qu'on peut jouer, puisque ceux qui fabriquent les puces d'NVIDIA, c'est TSMC, et ceux qui fabriquent les machines qui de TSMC, c'est ASML. Donc vous pouvez jouer et TSMC et ASML pour jouer en plus NVIDIA, mais je crois que dans les trois, il faut les garder précieusement.
Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Si David Krug vous a convaincu, prévenez vos amis, ils pourront le retrouver en replay et podcast sur notre application BFM Business dans à peine quelques minutes. C'était la Bourse Cash. Merci beaucoup, David.
Merci beaucoup, Guillaume.
De nous avoir accompagnés cet après-midi, et donc le CAC qui recule à nouveau plus que Wall Street. Décidément, c'est la mauvaise habitude du moment. En Europe, on recule plus qu'à Wall Street. On sous-performe, on perd 0,5% à Paris. On passe sous les 8100, 8099 points en ce moment.